Les maudits sont sans importance.
La remise de Marie-Antoinette doit signifier la séparation de tout ce qui la relie à la maison d'Autriche, personne et chose. Ici encore, les maîtres de cérémonie ont imaginé un symbole particulier. Non seulement pas une personne de la suite autrichienne n'est autorisée à l'accompagner au-delà de la ligne de démarcation invisible, mais encore, l'étiquette exige qu'elle ne garde pas sur elle la moindre chose provenant de son pays, ni souliers, ni bas, ni chemise, ni ruban. À partir du moment où Marie-Antoinette devient dauphine de France, elle ne peut se vêtir que de tissu français. C'est ainsi que l'enfant de 14 ans est obligé de se dévêtir entièrement devant toute sa suite dans l'antichambre autrichienne. La nudité de ce tendre corps d'adolescente, à peine éclos, illumine un instant la pièce obscure. Puis on la revêt d'une chemise de soie française, de jupons de Paris, de bas de Lyon, de souliers de cordonnier de la cour. Elle ne peut conserver aucun souvenir, pas même une bague, une croix. Le monde de l'étiquette ne croulerait-il pas si elle gardait une seule agrafe ou un ruban qu'elle aima? À partir de maintenant, elle ne doit plus voir autour d'elle un seul des visages auxquels elle est habituée depuis des années. Est-ce étonnant si l'adolescente, effrayée par toute cette pompe et ces chinoiseries, est si brusquement jetée dans une atmosphère étrangère, fond en larmes comme une enfant? Mais il s'agit de reprendre immédiatement une tenue convenable, car les transports sentimentaux ne sont pas de mise à un mariage politique. Là-bas, dans l'autre pièce, la suite française attend déjà, et ce serait une honte que d'aller au-devant d'elle, les yeux humides et craintives. Le comte Starenberg, gentilhomme d'honneur, lui tend la main pour l'aider à faire le pas décisif. Et vêtu à la française, accompagné pour la dernière fois de sa suite autrichienne, archiduchesse d'Autriche pendant 2 minutes encore, elle entre dans la salle où elle doit être remise à la délégation bourbonienne qui l'attend, en grande pompe et grand apparat. L'ambassadeur de Louis XV prononce un discours solennel, lecture est donnée du protocole, puis, tout le monde retient son souffle, voici la grande cérémonie où chaque pas est calculé comme dans un menuet et qui a été appris et répété plusieurs fois. La table au milieu de la salle représente symboliquement la frontière. D'un côté, les Autrichiens, de l'autre, les Français. Tout d'abord, le gentilhomme d'honneur autrichien lâche la main de Marie-Antoinette. Le gentilhomme d'honneur français s'en empare et d'un pas solennel fait accomplir lentement le tour de la table à la jeune fille tremblante. Pendant ces minutes exactement comptées, la suite autrichienne se retire lentement vers l'entrée et de la même cadence, la suite française s'avance vers la future reine. De sorte qu'au moment précis où Marie-Antoinette se trouve avec la cour française, la cour autrichienne a déjà quitté la salle. Cette débauche d'étiquette se déroule en silence, impeccable, grandiose et fantomatique. Mais au dernier instant, la fillette intimidée ne peut plus se contenir devant cette glaciale solennité et au lieu d'accepter, calme et froide, l'humble révérence de sa nouvelle dame d'honneur, la comtesse de Noailles, elle se jette en sanglotant dans ses bras, comme pour y chercher un refuge. Geste d'abandon charmant et attendrissant, que tous les grands coptes du cérémonial des deux côtés du Rhin avaient oublié de prescrire. Mais le sentiment ne fait pas partie des logogriffes et usages de cour. Déjà le carrosse vitré attend au dehors, les cloches sonnent à la cathédrale de Strasbourg et les salves d'artillerie retentissent. Au milieu d'un déchaînement d'acclamations, Marie-Antoinette quitte pour toujours les rivages insouciants de l'enfance. Son destin de femme commence. L'arrivée de Marie-Antoinette marque une heure de joie inoubliable pour le peuple français qui depuis longtemps a perdu l'habitude des fêtes. Il y a de nombreuses années que Strasbourg n'a plus vu de dauphine. Et peut-être n'en a-t-elle jamais vu une aussi adorable que cette jeune fille. La svelte enfant aux cheveux blonds cendrés, aux yeux bleus et expiègles, rit et sourit du fond de son carrosse vitré aux innombrables Alsaciens et Alsaciennes accourus des villes et villages dans leur joli costume national pour acclamer le somptueux cortège. Des centaines d'enfants, de blancs vêtus, précèdent la voiture en jonchant le chemin de fleurs. Un arc de triomphe a été dressé, les portes sont pavoisées sur la grande place. Le vin coule de la fontaine, des bœufs entiers rôtissent à la broche. On distribue d'énormes corbeilles de pain aux pauvres. Le soir, toutes les maisons sont illuminées. Des flammes serpentent autour du clocher et la dentelle rougeâtre de la divine cathédrale en devient transparente. D'innombrables barques et bateaux glissent sur le Rhin, éclairés par des torches aux couleurs diverses, et portant des lampions par elle à des oranges de feu. Des boules de verre multicolores, resplendissantes de lumière, scintillent dans les arbres. Et le monogramme entrelacé du dauphin et de la dauphine brille sur l'île, couronnant au milieu de figures mythologiques un feu d'artifice grandiose. Jusque fort avant dans la nuit, le peuple, avide de spectacles, déambule dans les rues et le long du fleuve. La musique vibre et résonne. Dans des centaines d'endroits, garçons et filles dansent joyeusement. La blonde messagère d'Autriche semble avoir apporté un nouvel âge d'or. Une fois encore, le peuple de France, oubliant ses maux et son ressentiment, reprend courage et se laisse aller à un joyeux espoir. Mais ce tableau magnifique dissimule lui aussi une déchirure secrète. Comme dans le gobelin de la salle de réception, le destin y a glissé symboliquement un signe de malheur. Lorsque le lendemain, avant son départ, Marie-Antoinette veut se rendre à la messe, ce n'est pas le vénérable évêque qui l'accueille à l'entrée de la cathédrale, mais son neveu et coadjuteur. L'air un peu efféminé dans sa soutane violette et flottante, ce prêtre mondain prononce une allocution galante et pathétique. Ce n'est pas sans raison que l'Académie l'a accepté dans ses rangs, où se détachent ces phrases de courtisan. Vous allez être parmi nous la vivante image de cette impératrice chérie, depuis longtemps l'admiration de l'Europe, comme elle le sera de la postérité. C'est l'âme de Marie-Thérèse qui va s'unir à l'âme des Bourbons. Après les salutations, le cortège se range respectueusement sous la voûte sombre de la cathédrale. Le coadjuteur conduit la princesse à l'autel et de sa fine main baguée, de jeune premier, élève l'ostensoir. C'est Louis, prince de Rohan, futur héros tragicomique de l'affaire du collier, l'adversaire le plus dangereux de Marie-Antoinette, son ennemi le plus funeste, qui le premier lui souhaite la bienvenue en France. Et la main qui maintenant lui donne la bénédiction est la même, qui plus tard précipitera dans la boue son honneur et sa couronne. Marie-Antoinette ne peut pas demeurer longtemps à Strasbourg, dans cette Alsace qui lui est une demi-patrie. Quand un roi de France attend, tout retard serait inadmissible. Au milieu d'une mer bruissante d'acclamations, sous les arcs de triomphe et les portes enguirlandées, le cortège nuptial fait enfin route vers son premier but, la forêt de Compiègne, où dans un imposant cortège de voitures, la famille royale attend. Courtisans, dames de la cour, officiers, gardes du corps, trompettes, tambours et musiciens, tous vêtus d'habits neufs et étincelants, forment deux groupes bariolés. Ce jeu de couleurs flamboyantes donne un éclat particulier à la forêt printanière. À peine les fanfares des deux suites annoncent-elles l'approche du cortège nuptial que Louis XV quitte son carrosse pour recevoir la femme de son petit-fils. Mais déjà, de son pas léger tant admiré, Marie-Antoinette se hâte au-devant de lui et s'agenouille dans la plus gracieuse des révérences. N'oublions pas qu'elle fut l'élève du grand maître de danse Nauvert, devant le grand-père de son futur époux. Le roi, bon connaisseur, par son parc aux cerfs de fraîche chair féminine, fort sensible au charme et à la grâce, se penche avec une tendre satisfaction vers la blonde et appétissante enfant, aide la fiancée de son petit-fils à se relever et l'embrasse sur les joues. Ensuite seulement, il lui présente son futur mari, qui avec ses 5 pieds 10 pouces, gauche, embarrassé, compassé, lève enfin ses yeux somnolents de myope et, sans montrer un empressement particulier, baise cérémonieusement sa fiancée sur la joue, conformément à l'étiquette. Dans le carrosse, Marie-Antoinette est assise entre le grand-père et le petit-fils, entre Louis XV et le futur Louis XVI. Le vieillard paraît bien tenir le rôle du fiancé. Il parle avec animation et fait même un peu la cour à la jeune fille. Tandis que l'époux de demain s'ennuie et se tient silencieusement dans son coin. Le soir, lorsque les fiancés, déjà mariés d'ailleurs par procuration, gagnent leurs chambres respectives, le triste amoureux n'a pas encore dit un seul mot de tendresse à la ravissante ingénue. Et dans son journal intime, comme résumé de cette journée décisive, il écrit sèchement cette unique ligne. Entrevue avec Madame la Dauphine.
Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici venir l'orage, voici l'éclair qui luit.
Les maudits sont sans importance.